Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars et nous revoilà pour de nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un velouté de potiron, une brandade de poisson et une tarte aux poires chocolat. Alors pour les ingrédients, il vous faudra pour le velouté de potiron, il vous faudra 30 g d'oignon, 30 g de beurre, 400 g de chair de potiron, 100 g de pommes de terre, 500 g d'eau, une cuillère à café de sel, une pincée de poivre, 150 g de crème fraîche. Côté ustensiles, il vous faudra un faitout, un épluche-légumes, un grand couteau, un blender ou un mixeur. Pour ce qui concerne la brandade de poisson, vous aurez besoin de 600 g de filet de cabillaud ou de lieu, 5 brins de persil plat, 300 g d'eau, 2 gousses d'ail, 500 g de pommes de terre, 4 cuillères à soupe de lait, une pincée de poivre, 30 à 60 g d'huile d'olive. Côté ustensiles, il vous faudra une casserole, un ou un cuit-vapeur, un épluche-légumes, un grand couteau et un plat à gratin. Pour la tarte aux poires chocolat, vous allez avoir besoin de 100 g de pépites de chocolat ou 100 g de chocolat style Nestlé dessert qu'on concassera, 130 g de poudre d'amande, 4 œufs, 150 g de sucre, une pincée de sel, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de kirsch ou de rhum, 50 g de sucre glace, une pâte feuilletée ou brisée ou encore sablée, 6 belles poires bien mûres. Et côté ustensiles, il vous faudra un saladier, un moule à tarte, un petit couteau et un épluche légumes. Voici pour les ingrédients et les ustensiles. Alors nous allons pouvoir commencer cette soirée par je vais dire bonjour à Nathalie et comme mon habitude à Nathalie et Théo qui m'accompagnent. Et puis c'est bonjour Théo, bonjour Nathalie. Voilà, en espérant que vous avez passé tous un bon week-end, que ce début de semaine ensoleillé était magnifique et qu'on va profiter de cette soirée pour se régaler. Spéciale dédicace, je l'ai promis à Patrick, mon beau-frère, qui est venu m'aider dans mon futur projet. Donc voilà, merci Patrick en direct d'Infini. Grand merci et puis je te fais des gros bisous, je sais que tu m'écoutes. Alors, on va commencer donc ces recettes. On va commencer par la tarte parce qu'elle va cuire 45 minutes. Donc on commence par le début. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc déjà, on met la pâte feuilletée ou brisée ou encore sablée. Ça dépend de votre goût. Moi, perso, j'aime bien la pâte feuilletée parce que il y a plusieurs feuilles quand elles craquent et puis ça craquelle au niveau de la bouche. Donc c'est assez sympa. Donc on va mettre notre pâte dans notre moule sans enlever le papier cuisson. Alors ça, je le répète parce que le papier cuisson, c'est pas un papier qui est une protection, hein. C'est un papier qui sert à mettre dans le moule, ça facilite le démoulage de la tarte. Il faut bien que votre pâte épouse le fond, avec vos doigts, enfin avec le dos de votre doigt, je vais y arriver. Vous allez pousser votre pâte dans l'angle de votre moule à tarte. Et puis, vous allez prendre une fourchette et vous allez faire une vingtaine de coups de fourchette dans votre pâte. Parce que quand on va y mettre la poire, si jamais elle rend un petit peu de jus, ce qui est normal puisque c'est des poires bien mûres, eh ben, ça va permettre au jus de s'évaporer par ces petits trous. Et puis, bon, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on fait une vingtaine de coups de fourchette dans la pâte. Et puis, si votre moule il est trop petit et que votre pâte elle dépasse du moule, ben, il n'y a pas d'importance, vous la laissez telle qu'elle est. Et puis, je vous expliquerai à la fin de la recette comment on rabat ce surplus de pâte pour éviter de la jeter, tout simplement. Voilà. Et puis, on va prendre un saladier et on va mettre 4 œufs. Alors, là, ça va être, on va choisir celui qui a plus de force dans la maison. Hein, donc, parce qu'il va falloir un petit peu de force pour blanchir les œufs et puis le sucre. On va donc mettre dans ce saladier 4 œufs et puis on va y mettre vos 150 grammes de sucre, une pincée de sel pour relever le goût. Et puis là, on va commencer à fouetter. Alors, pour les plus feignants, vous pouvez prendre un fouet électrique, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est en fin de compte de blanchir, c'est-à-dire qu'on va mélanger ces œufs et puis ce sucre de façon à ce que ça fasse un mélange un peu mousseux et légèrement jaune pâle, de façon que, voilà, c'est ce qu'on appelle le blanchir. Donc vous fouettez au maximum et puis très fortement. Et puis quand tout ça est fait, donc il y a peut-être quelqu'un qui va s'occuper du beurre, hein, donc mettre votre beurre à fondre. Alors vous avez deux choix, hein, pour mettre le beurre à fondre. Ou vous le mettez au micro-ondes et là, en moins d'une minute, hein, en moins de 30 secondes, il est fondu. Mais il ne faut pas qu'il soit trop chaud, parce que sinon, ça ne va pas aller. Ou alors, vous le mettez dans une casserole, mais encore une fois, la casserole, si vous la mettez trop forte, ça ne va pas aller. Donc moi, j'aime bien le micro-ondes, c'est rapide, si vous ne l'avez pas préparé à l'avance. Donc, vous faites fondre 125 grammes de beurre. Donc, il ne faut pas qu'il soit chaud, bouillant, et puis on va rajouter dans cette préparation, donc là je pense que vos œufs et puis votre sucre est mousseux et jaune pâle, donc on rajoute le beurre fondu, les 125 grammes de beurre fondu, et puis on va continuer à remuer pour bien incorporer le beurre fondu à cette préparation. Et puis vous allez y mettre vos 130 grammes d'amandes. Ensuite, vous allez mettre une cuillère à soupe de maïzena et là, vous refouettez toujours vivement. À vous, force et courage, parce que il faut que la pâte soit bien crémeuse. Et puis, une fois qu'elle sera bien crémeuse et de couleur toujours jaune, jaune très très pâle, eh ben, on va rajouter quelques gouttes de kirsch. Alors, moi j'aime bien le kirsch, c'est un alcool qu'on voit de moins en moins dans les pâtisseries, mais dans le temps, enfin moi quand j'ai commencé mes études de cuisine et de pâtisserie, on mettait beaucoup de kirsch, très peu de rhum, parce que, mis à part dans les babas au rhum, mais c'était le kirsch, parce que ça relevait bien le goût. Donc, quand dans votre préparation qui va être crémeuse, vous allez rajouter une cuillère à soupe de kirsch ou de rhum pour ceux qui aiment bien le rhum, ou encore vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille. Voilà, de la vanille liquide pour ceux qui aiment non alcoolisé, ça peut être bien aussi. Ça parfume toujours un peu. Alors si vous n'avez pas de vanille liquide, vous pouvez mettre du sucre glace vanillé. Ça c'est super sympa aussi parce que ça parfume parfaitement bien vos plats. Donc, bah, écoutez, si tout est prêt, là, c'est crémeux, vous avez rajouté votre, votre kirsch, eh ben, bravo, vous venez de réaliser votre première frangipane. Parce que ce qu'on vient de réaliser, c'est de la frangipane. C'est un plat, c'est un dessert que vous pourrez utiliser. Là, on a choisi des poires, mais vous pourrez l'utiliser avec de l'abricot, vous pourrez l'utiliser avec des pommes, vous pourrez l'utiliser avec de l'ananas, les fruits de saison. Voilà, ça fera comme une amandine. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, d'où l'origine de cette tarte. Bien, bah écoutez, alors cette frangipane, vous pourrez l'utiliser aussi l'année prochaine. Vous pourrez réutiliser cette recette, on va dire, l'année prochaine, parce que c'est exactement ça qu'on met dans la galette des rois. Donc c'est une frangipane qu'on englobe dans deux pâtes feuilletées. C'est tout simplement facile à faire. Ça sera, bon, on verra l'année prochaine, on verra exactement comment faire la galette des rois. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui se perd, la frangipane, mais moi je trouve que c'est un délice à manger à partir du moment où elle est crémeuse. On va mettre cette crème. Là, je vous ai laissé le temps de bien fouetter tout. Donc, vous allez mettre cette crème dans le fond de votre pâte. Et puis, avec le dos, alors, elle est un peu épaisse, hein, ce qui est normal. Et donc, avec le dos de la cuillère, d'une cuillère à soupe, on va répartir partout la crème sur le fond de la pâte. Voilà, vous allez commencer à préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6, et puis on va éplucher nos 6 belles poires. Alors, pour une question de pratique, après vous ferez comme vous voulez, la façon dont vous les épluchez n'a peu d'importance, mais pour une question de pratique, moi j'aime bien commencer par à éplucher la poire de la tête au cul de la poire. De toute façon à ce que ce soit plus simple, parce que le contraire c'est plus délicat et le coup, quand vous arrivez au niveau de la tête, vous risquez de plus vous couper. Voilà, avec un épluche légumes c'est mieux. Puis on va la couper en deux dans le sens de la hauteur, cette poire, et on va retirer la queue et puis la partie filandreuse qui va jusqu'au trognon. Vous allez voir que du trognon à la queue, vous avez une partie filandreuse, vous tirez dessus et normalement quand les poires sont bien mûres ça part tout seul. Et puis ensuite vous allez alors là vous avez deux choix, ou on va les garder entières et les mettre sur votre frangipane. C'est comme on veut. Moi j'avoue que j'aime bien la deuxième, que je vais vous dire. La deuxième c'est plus joli déjà. On va la couper en fines tranches dans le sens de la largeur. Et une fois que vous aurez fait toutes les coupes, vous allez faire glisser sous votre demi-poire, vous allez glisser un large couteau. Alors c'est un petit peu en équilibre, mais bien à plat, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Et avec votre main par-dessus le tout, donc par-dessus la poire et le couteau, vous allez faire pencher les tranches vers la forme la plus ronde. Et disposez votre demi-poire dans le moule sur la frangipane de façon à ce que ça fasse une fleur, une belle fleur, vous savez, une pétale de grosse marguerite. Voilà, ça. Et on fait la partie la plus fine sur le milieu de la poire. Hein, donc au centre de la poire, pour que les parties arrondies arrivent sur le bord de la poire. Voilà, et puis vous allez appuyer légèrement de façon à ce que cette poire, cette demi-poire, se fonde dans la frangipane. Si vous avez vos 100 grammes de pépites de chocolat, ben vous les parsemez par-dessus la tarte. Et quand ça va cuire, votre frangipane va gonfler légèrement et va englober ce chocolat. Donc il n'y a même pas besoin de mélanger à la frangipane. Vous le mettez comme ça, c'est aussi simple et c'est aussi, ça va être aussi joli. Si vous n'avez pas vos pépites de chocolat, ben c'est pas grave. Vous prenez vos carrés de chocolat. Puis vous allez ou les mixer très rapidement hein, dans le mixeur, ou alors avec un couteau, vous les coupez rapidement en plus ou moins gros morceaux. Voilà, et puis vous les mettez comme ça. Si vous avez plus de patience, ben vous les râpez avec votre épluche légumes. Ça peut être aussi sympa de faire des copeaux de chocolat, tout simplement. Donc, on met nos copeaux de chocolat sur notre tarte et puis on rabat voilà, nos fameux bouts de pâte qui dépassent du bord de notre moule à tarte. Et ben, on va les rabattre au bord, par-dessus ben, les poires et la frangipane. Et bien voilà, votre tarte aux poires est prête à mettre au four. Donc, et on est parti. Donc Nathalie, tu vas nous mettre 45 minutes au compteur. Et puis tu nous diras au fur et à mesure, hein, comme à l'habitude. Voilà, et ben écoutez, après tout ça, ben je pense qu'on va vous laisser un petit peu le temps de finir un petit peu, parce que couper les poires, c'est et puis les éplucher, et puis ben on se retrouve tout à l'heure après une pause musicale. À tout de suite.
You must be single, that must be why. You sent me some poem the other night. That shit's confusing, I have to say. Oh, you have got some nerve talking that way. Yeah, turn it up to let me know. You will still give us a go. I'm sorry, but we've done this all before. It's just another show, another story to be told. Intending to hurt me again. You look like a vision, but now I'm beginning to see through the haze. Don't be so fake.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Et nous revoilà. Bonsoir pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc, nous, on a commencé à mettre au four notre tarte aux poires au chocolat. Et puis, pour le moment, on n'a fait que ça. Et déjà, c'est déjà pas mal. Donc, on surveille bien. Bon, on a 45 minutes devant nous, même un peu moins maintenant. Ce qui va nous laisser le temps de préparer notre brandotte de poisson et notre velouté de potiron. Alors, pour notre brandade de poisson, nous allons mettre de l'eau dans une casserole. Alors, moi, je fais pas compliqué cette brandade de poisson parce que ça sert à rien de faire une cuisine compliquée. Il suffit d'avoir les bons ingrédients et d'avoir un bon assaisonnement, et ça vous fait une belle brandade de poisson. Alors, moi, j'ai pas choisi de la morue parce que c'était trop compliqué, parce que j'aime pas ça, parce que c'est trop salé parfois, même si on l'a fait tremper 24 heures dans le lait. Voilà, donc moi, je prends du poisson. Alors, pour cette recette-là, j'ai pris du filet de cabillaud qui est de la morue, hein, sauf que ce cabillaud-là, il n'est pas séché ni salé. Vous pourriez prendre un lieu, vous pourriez prendre un aigle fin, voilà, un poisson blanc, c'est mieux, pas trop sec. Donc, alors, je reviens à ma casserole avec l'eau. Donc, on va mettre 2 gousses d'ail. Donc, vous vous souvenez de l'épluche, comment on épluche les 2 gousses d'ail plus facilement. Hein, donc, on prend ou un couteau ou le dos d'un couteau, le plat d'un couteau ou le dos d'un verre. Et puis, on écrase la gousse d'ail. Et vous allez voir, elle va s'éplucher très facilement. Et puis, vous la mettez entière dans l'eau. Et puis après, vous allez donc éplucher vos pommes de terre. Donc là, 500 grammes de pommes de terre, ça va relativement vite si ce n'est pas déjà fait, puisque on vous avait déjà donné la recette vendredi. Et puis, vous allez les couper en morceaux de 4 cm. Alors, vous n'allez pas les mesurer, bien évidemment, hein, mais moi, je les coupe assez finement en petits morceaux pour que ça cuise beaucoup plus vite. Parce que ça dépend des pommes de terre que vous prenez, en fin de compte. Quand vous prenez des pommes de terre, comme il y a plusieurs variétés, on ne sait jamais si c'est les pommes de terre pour la purée, que c'est... Bon, voilà, vous prenez les pommes de terre que vous avez, vous les épluchez, vous les coupez en petits morceaux et puis vous les mettez dans... Alors, vous les rincez, ça c'est important, c'est de les rincer une fois épluchées. Et puis, vous les mettez dans l'eau, pareil. Et puis, vos filets de poisson, vous les mettez entiers dans votre casserole. Donc là, il vous faut quand même une belle casserole. Et puis, vous allez laisser porter à ébullition cette préparation-là. Vous pouvez y rajouter un petit peu de sel, mais ça, on le fera. Moi, je préfère le rajouter après, le sel, une fois qu'on aura fait tout cuit. Alors, et on va laisser dans cette casserole cuire pendant 15 minutes. Alors, ça peut aller très vite puisque votre poisson va cuire très très vite et votre pomme de terre, si elle est coupée en petits morceaux, ça va aller très vite. Alors, vous pouvez avoir une variante pour que ce soit encore plus moelleux. Vous pouvez les cuire dans du lait. Donc vous, à la place de l'eau, vous mettez du lait. Il y aura un goût un peu plus sympa. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère mettre le lait après et puis le cuire dans l'eau. Voilà. Donc écoute, Nathalie, tu nous diras les 15 minutes supplémentaires. Hein, donc tu rajoutes, je te fais confiance hein, par rapport à tout ça. Ce qui va nous laisser le temps là, c'est notre velouté. Vous voyez, c'est pas très compliqué de faire de la brandade. Pendant que ça cuit, on jette un coude sur la tarte, mais normalement ça devrait pas être trop mal. Votre thermostat est toujours à 180 degrés et puis thermostat 6. Donc faites attention à ne pas augmenter parce que ça doit cuire tout doucement et gentiment. Et pendant que tout ça cuit, ben, on va préparer déjà ce velouté. Alors, le velouté de potiron, on va donc dans une casserole, vous allez faire fondre 30 grammes de beurre. Et puis, vous allez éplucher. Alors là, pendant que le beurre, il fond, hein, il fond tout doucement. Il crépite pas, il brûle pas, surtout, c'est important. Donc, vous le mettez à feu doux. Et puis, vous allez éplucher vos oignons. Alors, il n'en faut pas énormément hein, d'oignons, puisque je vous rappelle qu'il ne faudra que 30 grammes d'oignons. Si vous mettez un petit oignon, ça suffira bien. Donc, éplucher et vous allez le hacher. Alors, vous pouvez très bien le hacher en petits morceaux ou en fines lamelles, c'est aussi bien. Donc, ça prend 2 secondes et demie. Et puis, pendant que votre beurre frémit, vous allez y jeter votre oignon de façon à le faire rissoler. Et puis, on va le faire rissoler à feu doux, gentiment, comme les autres fois. Vous savez que j'aime pas faire roussir l'oignon parce que ça n'a pas forcément bon goût et puis c'est pas très agréable. Le mieux, c'est de le faire fondre et qu'il devienne translucide. Voilà, et donc pendant 5 minutes, on va faire frémir, rissoler cet oignon. On va s'occuper pendant ce temps-là du potiron. Alors le potiron, c'est toujours très 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 délicat, enfin délicat. Il faut avoir une force surhumaine pour déjà couper ce gros potiron. Donc je pense que vous en avez acheté au moins un quart. C'est pas la peine d'en acheter autant. Bon, moi ils viennent du jardin, hein, donc c'est les derniers. Les derniers du jardin qui étaient énormes cette année, même si on a eu beaucoup de pluie. Donc je vous rappelle qu'il faut que 400 grammes de chair. Donc on va couper, moi j'aime bien les couper en lamelles de 4 cm, alors toujours 4 hein, parce que bon, c'est mon chiffre. Et puis ces lamelles, vous allez les recouper en deux. Donc en fin de compte, quand vous les avez dans la main, ça sera plus facile à éplucher et vous prenez un épluche-légume et vous allez avoir un bon épluche-légume, ça va vous enlever entièrement la peau. Vous n'oubliez pas d'éplucher aussi 100 grammes de pommes de terre que vous allez couper en morceaux, pareil, en petits morceaux de façon à ce que ça cuise. Donc une fois que vous aurez coupé vos lamelles, vous recouperez en petits morceaux, hein, c'est pareil, 3-4 cm, comme les pommes de terre, et tout ça, vous allez les mettre dans l'eau, vous allez les mettre dans la casserole où il y a l'oignon et puis le beurre, et puis vous allez les remuer, donc vous allez un petit peu faire roussir tout ça, mais très gentiment hein, sans trop que ça vienne roux. Et puis une fois que vous sentez que ça crépite un peu dans la casserole, et ben vous allez y mettre vos 500 grammes d'eau. Et une fois que c'est porté à ébullition, et là, on comptera 15 minutes pour ce velouté. Donc, Nathalie, tu rajouteras 15 minutes. Ouais, ça fait plus 15 minutes. Ça va aller ? Attends, alors moi, je regarde. Donc, et ben dans un quart d'heure, moi, c'est bon, j'ai le truc. Ok, faut juste pas que j'oublie. Alors, pendant que tout ça cuit, donc je vous rappelle qu'on a mis notre tarte aux poires chocolat au four, que nous avons la brandade qui est en cours de préparation puisque elle est dans la casserole en train de bouillir et de cuire, et puis notre velouté de poireaux de potiron que nous venons de mettre sur le feu à feu temps d'ébullition à feu vif, et puis après vous baisserez une fois à ébullition pour que ça garde l'ébullition tout au long des 15 minutes. Alors je vais vous raconter un peu d'histoire. Vous savez que la cuisine est une chose, mais d'où vient ce potiron ? Alors déjà, Nathalie, est-ce que à ton avis, le potiron, et je le pose à Théo aussi, est-ce que le potiron est un fruit ou un légume ? Ah.
J'ai pas de micro. Je dirais un cucurbitacé.
Ah, oui. Je sais pas, un légume. Est-ce que tu t'es pas renseigné? Alors, tu dirais oui, un légume. Effectivement, bah, on dirait tous un légume. Alors, il y en a peut-être un qui va dire non, c'est un fruit. Eh ben, il aura raison. Alors, je vais vous raconter un peu cette histoire de cette plante. De la famille, effectivement, des cucurbitacées, originaire de la région tropicale d'Amérique du Sud. Tiens, on est encore en Amérique du Sud. Hein, donc c'est Argentine cette fois-ci et Uruguay. Elle est largement cultivée dans tous les pays chauds et tempérés. Le potiron est largement cultivé comme une plante potagère pour son fruit comestible. Et oui, c'est un fruit comestible, donc comestible à maturité. Alors, je peux vous dire que d'en avoir planté, faut attendre un petit moment avant que ça pousse. Mais après, c'est super bon. C'est un peu une espèce de lierre qui va se faufiler et ça pousse très très vite. Tous les jours, vous pouvez le voir pousser et c'est la fleur du potiron qui va donner ce fruit orange. Voilà. Donc le terme désigné de ce fruit est consommé comme un légume. Et donc, on le mangera plutôt dans des plats préparés. C'est aussi l'un des cinq espèces de courges les plus couramment cultivées. Donc, en fin de compte, ça fait partie des courges. Alors, je ne vous dirai pas les noms latins de tous ces cucurbitacées, hein, parce que quand je me suis renseignée, c'était un grand moment. Donc j'ai dit non, je ne vais pas vous faire ce supplice-là. Donc cette plante a été introduite en Europe et en Chine par les Portugais. Ben tiens donc, hein, comme quoi. Et c'était au XVIe siècle. Comme toutes les courges, d'ailleurs, souvent confondues entre elles-mêmes, vous avez les gourdes, vous avez les calebasses. On confond un petit peu ce que c'est une courge, une gourde. Alors, moi, une gourde, il y a plusieurs gourdes. Hein. Vous avez la gourde à boire et vous avez la gourde, celle qui bête. Bon, ça, c'est ceci en passant. Hein. Donc, en Europe, on connaît le potiron et puis les calebasses et puis les gourdes depuis l'Antiquité. Et c'est Charles Naudin que l'on doit la distinction entre les espèces de variétés de potirons. Alors, il ne faut pas confondre les potirons et les citrouilles. Ça aussi. Donc, c'est un bon moment. Qui appartiennent à deux espèces différentes. Alors, la citrouille, elle a une forme ronde, et puis, donc, bien ronde, hein, et de couleur orange. Et son pédoncule est dur et fibreux, et avec cinq côtés anguleuses. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu des vagues. Vous voyez, c'est ça, les onguleuses. Et qui se rattachent au point du pédoncule. Sa chair, elle est filandreuse et c'est elle qu'on utilisera plus pour Halloween. Contrairement au potiron, et qui est le plus ou moins aplati. Donc lui, il n'est pas du tout rond. Il est rond sur les côtés, mais il est aplati du cul et à la tête. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Par contre, sa couleur, elle est toujours orange, mais elle peut varier du orange rougeâtre au vert foncé. Voilà, tout dépend de l'espèce de la variété. Je vais y arriver. De la variété du potiron. Donc, son pédoncule est tendre et spongieux, cylindrique, évasé près du fruit. Et sa chair du potiron, elle est plus sucrée, plus savoureuse et moins filandreuse que celle de la citrouille. Voilà. Donc, dans le langage courant, les différents termes se font souvent confondus. Le mot courge est un terme générique. Donc, le potiron, la citrouille, la gourde et la calebasse, ce sont des courges et ce sont des termes génériques. Voilà, donc, et qui font partie de la famille des cucurbitacées. Voilà, Nathalie, tu peux nous dire où en est le temps ?
Alors, il reste à peu près 2 minutes.
La brandade ?
Oui.
Ouais, pour la brandade. Et on a 7 minutes pour...
Ouais, à peu près 7-8 minutes pour...
Tu m'as dit, il reste...
2 minutes.
2 minutes. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est une courte pause musicale, de façon à ce que nos 2 minutes arrivent et on rattaquera sur notre brandade. À tout de suite.
J'ai pas fait semblant. Je te jure, j'ai jamais dit non. J'ai pas fait semblant. Je te jure, j'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, rebonsoir. Là, je pense qu'on va être arrivé pour notre brandade.
La brandade, elle est cuite. Hein,
elle... Alors, ouais. On va arrêter le feu au niveau de la brandade et on va le mettre de côté. Ça va nous laisser le temps que ça refroidisse un petit peu. Après, ça va être un petit peu plus rapide. Et en ce qui concerne notre potiron qui est en train de chauffer, il nous reste un petit peu de temps. Donc, j'ai le temps de vous raconter une autre histoire qui concerne la brandade. Alors, normalement, la brandade, comme je vous l'ai dit au début, c'est une brandade de morue, mais c'est aussi une brandade de poisson, parce que la morue, ça reste du cabillaud. Que à l'origine, on pour la conserver, on faisait sécher et saler. Et c'est le terme du cabillaud séché et salé que l'on va appeler la morue. Donc c'est une spécialité de Nîmes et qui est donc originaire d'Alès. Donc c'est alors cette morue s'est répandue dans toute l'Occitanie. Le Languedoc, en passant par la Provence, le Roussillon et jusqu'au pays catalan. Jusqu'à l'invention des frigos, c'était la seule façon qu'on avait de conserver le cabillaud, qui était donc salé et séché. Et c'est pour ça qu'on l'appelait de la morue. Et c'était une tradition des pêcheurs de l'Atlantique et de la mer du Nord, où le cabillaud se trouvait en abondance. Donc les pêcheurs venaient à Nîmes échanger leur morue contre du sel provenant des salins du Midi. Et puis au Pays Basque, dès les premières années du XVIe siècle, les morutiers basques naviguaient jusqu'à Terre-Neuve afin d'apporter d'importants contingents de cabillaud. Donc vous voyez, c'était vraiment de l'abondance au niveau du cabillaud. Les Basques développent alors différentes recettes à base de morue, comme la brandade de morue parmentière ou avec d'autres variantes qui existent en Charente, utilisant l'ail et puis le persil. C'est à Nîmes, exactement. Il existe des recettes cuisinées à partir de la brandade nîmoise, différente de la brandade de morue parmentier. Alors j'espère que vous vous retrouvez de tout ça, mais il faut savoir que cette recette ne contient pas de morceaux de morue, hein, puisque et consiste plutôt en purée de morue. Donc vous voyez la différence, hein. La brandade de morue, c'est avec des morceaux, et puis la brandade nîmoise, elle est plutôt en purée. Hein, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être plus une purée, ça va pas être des gros morceaux mélangés. Donc cette purée de morue, hein, ou de poisson, on va y rajouter de l'huile d'olive à laquelle on rajoutera des pommes de terre gratinées au four. Vous voyez, donc à l'époque, à Nîmes, vous retrouverez encore cette recette-là et qui s'appellera... la brandade nîmoise, vous aurez des morceaux de morue mélangés avec des petites pommes gratinées au four. Donc c'est un cuisinier, l'évêque Monseigneur Durand, natif d'Alès, qui en 1766 utilisa l'idée de la recette de la brandade de morue. Voilà, et on va retrouver cette brandade de morue qui était de Monsieur Augier, restaurateur de Nîmes, en mariant la morue salée avec des ingrédients régulièrement utilisés dans la cuisine méridionale. C'est pour ça qu'on va retrouver dans cette brandade nîmoise ou brandade de poisson, de l'ail, du persil Et puis de l'huile d'olive, bien évidemment. Voilà, c'est deux jolies histoires. Bon, bah écoutez, on va éteindre le feu au niveau, le feu. On va retirer de la casserole notre potiron. On a mis de côté notre casserole avec la brandade. Notre tarte, il reste combien de temps ?
Il reste un peu plus d'un quart d'heure.
Voilà, donc écoutez, ça sera parfait. Donc, on va hacher votre persil. Donc, le persil plat, qu'on a les 5 brins de persil plat, on va les hacher et puis on va les réserver dans un bol. Et puis, nous allons égoutter notre poisson. Donc, vous prenez un écumoir et vous versez votre préparation pommes de terre, ail et poisson dans votre égouttoir, dans votre passoire, exactement. Et donc, vous faites attention de ne pas vous brûler. Donc, vous attendez bien que tout s'égoutte. Pendant ce temps-là, moi, j'ai pour habitude de préparer des petits croûtons à l'ail. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus. Donc, vous allez éplucher deux gousses d'ail, les hacher finement. Et puis, vous allez faire mettre dans une poêle de cuir à soupe d'huile d'olive. Et puis une fois que ça a bien chauffé cette huile d'olive, vous allez jeter votre gousse d'ail dedans et puis vos rondelles de pain. Alors ça peut être du pain dur ou du pain un peu rassis, ça peut être bien. Donc vos rondelles de pain, vous les mettez dans la poêle qui est en train de frémir avec l'huile d'olive et l'ail, et vous faites un aller-retour tout simplement. Comme ça, le pain va se gorger d'huile d'olive et d'ail. Et puis, vous les mettrez, une fois que vous avez fait un aller-retour, que l'huile a bien été absorbée par la mie de pain, et vous les mettez sur un papier absorbant et vos croûtons sont faits. C'est tout simplement comme ça. Enfin bon, après, il y a plusieurs façons de le faire. On peut gratter l'ail sur le pain dur avant de le mettre dans l'huile d'olive. Moi, je le fais comme ça et c'est tout aussi bien. Bon, c'est pas très bon pour la ligne, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on a égoutté nos pommes de terre. On va mettre notre pomme de terre, notre poisson et notre ail dans un grand saladier. Et puis, on va y rajouter le lait. Donc, je vous rappelle que c'est 4 cuillères à soupe de lait. Vous y rajoutez votre persil que vous avez haché, une petite pointe de poivre et une pincée de sel, et puis 30 grammes pour commencer d'huile d'olive. Et puis à l'aide d'une fourchette, vous allez écraser. Vous voyez, il n'y a pas besoin de batteur, il n'y a pas besoin. Normalement, comme c'est cuit 15 minutes, c'est super bien cuit et ça va être fondant. Donc, vous n'aurez pas à vous casser les muscles en écrasant cette préparation. Donc, vous écrasez. Si vous trouvez que c'est un petit peu sec, ce qui peut arriver, tout dépend de la nature de votre poisson ou de votre pomme de terre, vous pouvez y rajouter gentiment de l'huile d'olive. Si vous aimez que ça soit un peu moelleux, vous rajoutez un petit peu plus d'huile d'olive. C'est tout dépend de la consistance que vous voulez avoir. Et puis surtout, vous goûtez. S'il manque du sel, s'il manque du poivre, vous rajoutez à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on ne goûte pas avec ses doigts, mais on va prendre une petite cuillère. Et je vous rappelle que la préparation est chaude. Donc, il faudra souffler avant de le mettre à la bouche, sinon vous allez vous brûler. Voilà. Et écoutez, l'assaisonnement est bien. On va préchauffer notre four. Notre tarte, elle est au four. Donc, on n'a pas besoin. Donc toujours le four à 180 degrés, et ce qui va nous laisser le temps de mettre la préparation que vous avez dans votre saladier, et vous allez la mettre dans un plat à gratin, bien étalé avec le dos d'une cuillère. Moi j'aime bien faire des rayures de fourchette dessus. Je fais des croix, je fais un coup devant, un coup derrière. Enfin bon, voilà, j'aime bien faire des rayures, ça fait joli. Et comme ça, ça fait un petit peu gratiné, un petit peu roussi sur le dessus. Voilà, bah écoutez, et bah vous allez laisser cuire 15 à 20 minutes, ce qui va vous permettre de préparer donc 15 à 20 minutes au four. Vous l'enfournez avec votre tarte s'il y a assez de place, mais normalement, ça devrait être bien. Donc, bah écoutez, Nathalie, tu nous diras hein, ce qu'il en est. En ce qui concerne, on revient sur notre velouté cette fois-ci. Donc, notre velouté, lui, on va le... Alors, vous le mettez dans un mixeur, c'est plus facile, ou un blender si vous avez. Si vous avez un mixeur à bras, c'est aussi bien. Et vous allez mixer cette préparation. Alors, n'hésitez pas à mixer au maximum. Je vous rappelle que c'est un velouté qu'on veut. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Moi, un velouté, pour moi, c'est 100 morceaux. Donc, on va mixer. Ça va prendre 2-3 minutes hein, de mixer dans la casserole dans laquelle ça a cuit. Et puis vous allez y rajouter, une fois mixé, vous allez y rajouter le sel, le poivre et les 150 g de crème fraîche. Alors qu'elle soit liquide ou épaisse, peu importe, c'est 150 g de crème fraîche. Moi, j'aime bien utiliser la entière parce que ben voilà, le goût est pas le même que celle à 15% de matière grasse. Ça, c'est comme vous, c'est comme vous voulez. Et puis, par contre, cette préparation, donc, on a fini de mixer. Je pense que là, la mixture est bien parfaite. On va remuer ce velouté avec les 150 grammes de crème fraîche. Et puis, on va réchauffer et cuire pendant 4 minutes de façon à ce que la crème fraîche se dissout bien et qu'on ait un joli velouté. Alors, goûtez toujours avec une petite cuillère, de façon à rectifier l'assaisonnement, rajouter du poivre s'il faut, et puis rajouter le sel. Donc vous voyez, c'est pas très 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 compliqué de faire un velouté. Et que ce soit un velouté de potiron comme on a fait ce soir, ou que ce soit un velouté de courgettes ou de poireaux, ce sera exactement la même chose. C'est l'ingrédient initial qui changera. Mais ça, on en parlera une autre fois. Je vous ferai des petites coucous de soupe ou de velouté. Voilà. Nathalie, tu peux nous dire ce qu'il en est?
On est à plus de 35 minutes.
Bon, alors, bah, écoutez, il me reste une histoire à vous raconter, et c'est celle de la tarte aux poires. Alors, cette tarte aux poires, elle s'appelle la tarte Bourdaloue. Parce que c'est une tarte qui est faite à base de poudre d'amande. Elle est appelée, donc, cette tarte aux poires, vous pourrez dire j'ai fait de la tarte Bourdaloue. C'est aussi appelé une tarte Amandine aux poires. C'est une pâtisserie française qui a créé cette recette pendant la seconde moitié du 19e siècle. Donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et elle tient le nom, elle tient son nom parce que son créateur, il habitait la rue Bourdaloue à Paris. Et c'est là où son établissement était. Donc le nom de Bourdaloue semble d'abord pouvoir désigner un entremets aux amandes. Et les pâtissiers et historiens de l'art culinaire Pierre Calan, Lacan, excusez-moi, je me suis gouré, ça arrive. Donc eux, ils contribuent ainsi à l'invention du gâteau appelé Bourdaloue, est une pâtisserie de la maison Lester. Acteur, qui est installé au début des années 1850, rue de la rue Bordaloux, dans le 9e arrondissement. Donc je ne fais pas de la pub pour cette maison qui existe encore, mais vous voyez que le nom de la rue n'est pas d'aujourd'hui. Donc il s'agissait au départ d'un gâteau qui était à base d'amandes pilées, de sucre, d'œufs, de fécule de fécule de pommes de terre et qu'on cuisait avec qu'on cuisait et puis qu'on glaçait avec du kirsch. Donc c'est bien le kirsch qui va faire toute la différence de votre tarte Bordaloux. Voilà en ce qui concerne cette histoire un petit peu de tarte aux poires. Écoutez, on va revenir à notre cuisson. Nathalie, dis-nous ce qu'il en est.
On est à presque 39 minutes.
Bon,
il reste pas.
Eh bien, écoutez, là, on va se dire qu'on fait une petite pause et puis on se retrouve d'ici 10 minutes, d'ici 2 minutes, excusez-moi, pour fignoler tout ça. Bah, le temps que vous mettiez la table, le couvert avec les enfants et puis tout va sortir en même temps. C'est superbe. À tout de suite.
Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá mami.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, bien, bien. Écoutez, on arrive à la fin de notre émission déjà, mais on finit. Hein. On va jusqu'au bout de notre set, donc je pense que la table est mise. Ben, il est temps de passer à table. On va pas éteindre le four tout de suite. Au bout des 45 minutes, vous allez jeter un œil à votre tarte. Si elle est un peu brunie, bah, c'est qu'elle est cuite. Pour être sûr, bah, vous allez mettre une pointe de couteau dans votre dans le l'appareil qu'on avait mis, hein, pas dans la poire parce que ça va rendre humide, mais dans le fameux gâteau, la frangipane. Et si votre couteau ressort sec, c'est que c'est cuit. Si il ressort un petit peu humide avec de la pâte, c'est qu'il faut le laisser encore 5 minutes. Hein, donc ça sera à surveiller. Alors je vais vous expliquer, parce que comme on arrive à la fin de l'émission, je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez préparer cette tarte aux poires et au chocolat. Donc à la sortie, donc vous pouvez la laisser au four pendant que vous mangez votre velouté de potiron et puis votre brandade. Et au moment de servir, bah, vous allez la saupoudrer de sucre glace. Donc, pourquoi on avait mis nos 50 grammes de sucre glace ? Ben, c'est pour ça. Donc, vous la saupoudrez de sucre glace et puis vous la démoulerez. Et la mettre dans un joli plat, et vous allez voir, c'est au niveau de l'œil, ça sera super sympa. Voilà, bah écoutez, notre brandade sera cuite dans peu de temps, puisque c'est 15 minutes. Il est temps de passer à table. Bah pour moi, il est temps aussi de vous dire, de vous souhaiter un joyeux appétit, un bon appétit plutôt, et puis une excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, bah, prenez soin de vous, et puis on vous embrasse. Bonne soirée.